Liberté Santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Nous sommes aujourd'hui à Washington à l'occasion de la conférence internationale sur le sida. Avec moi pour en parler, le professeur Thérèse Ndry, qui est ministre de la Santé en Côte d'Ivoire, Tabin Tangila de l'association Amo Congo en République démocratique du Congo, Foggé Foguito, qui est directeur exécutif de Positive Génération au Cameroun, Bruno Spire, président d'AIDS, et Jean-Paul Moati, qui est professeur d'économie et qui est directeur de l'Institut de Santé publique. Madame la ministre, professeure Thérèse Ndry, merci de nous avoir rejoints. On aimerait bien justement, on a parlé dans la première partie de cette émission de la question des aides financières internationales, mais aussi de l'aide de chacun des États. J'aimerais bien d'abord peut-être votre réaction par rapport à ce sentiment un peu d'une baisse de l'aide internationale, en tout cas d'une stagnation de l'aide internationale, et après on parlera de l'aide des pays eux-mêmes.
Je pense que nous avons fondé beaucoup d'espoir sur l'aide internationale en ce qui concerne la lutte contre le VIH-SIDA. Parce que c'était une pandémie et chaque continent, chaque État voulait apporter sa contribution, surtout aider les pays pauvres, comme l'Afrique et notamment l'Afrique au sud du Sahara, où est située la Côte d'Ivoire. Nous avons bénéficié des fonds, mais très tôt, les bailleurs ont attiré notre attention sur la pérennisation des ressources. Comment faire pour qu'il y ait une pérennisation des ressources pour que lorsque ces partenaires se retireraient, la lutte puisse continuer? Mais nous ne savions pas que ça allait arriver si tôt et de façon brutale. Et c'est là où nous avons eu beaucoup de surprises. Parce qu'au moment où les programmes étaient lancés dans les pays, où nous obtenions des bons résultats, comme la Côte d'Ivoire, où nous sommes partis d'une incidence de 12% dans la population à 4,5% et nous espérons 3,5%, nous avons eu une baisse des ressources extérieures. Et je voudrais même rappeler que pour la Côte d'Ivoire, c'était grave parce que 87% des ressources qui contribuaient à aider à la lutte venaient des partenaires extérieurs. Donc c'était vraiment un coup dur. Mais je pense que ça a aussi donné l'occasion à chaque pays de prendre conscience des réalités. Nous avons nos populations, nous avons nos malades. Est-ce que nous allons continuer à tendre la main pour prendre en charge nos malades ? Madame Claire Hédon, je pense que l'Afrique est en train de réagir positivement. Nous avons eu deux réunions importantes entre les ministres de la Santé et les ministres de l'Économie et Finances à Yamoussoukro en août 2011 et très récemment à Tunis, les 4 et 5 juillet, une réunion organisée conjointement par la Banque africaine de développement et l'Organisation mondiale de la santé qui regroupait les ministres de la Santé, les ministres de l'économie et des finances et les partenaires techniques et financiers pour demander à chacun de faire un effort pour contribuer au financement de l'aide pour la santé en général et particulièrement pour le VIH-SIDA.
De façon très concrète, si on prend la situation en Côte d'Ivoire, quelle est la part du budget consacré à la santé dans votre pays ? On sait que les pays s'étaient engagés à Abuja il y a une dizaine d'années à ce que ce soit 15%. Vous, en Côte d'Ivoire, vous en êtes où ?
C'est 15% du budget de l'État. Mais en Côte d'Ivoire, vous savez qu'on a eu des problèmes sociopolitiques qui ont quand même diminué nos ressources et aujourd'hui nous sommes à peu près 4,5%. Mais il y a un effort considérable qui est fait au niveau de la Côte d'Ivoire parce qu'en dehors de ce budget qui est d'environ 4,5% du budget de l'État, nous avons le programme présidentiel d'urgence qui aide également la santé. Et pour les deux ans, nous avons bénéficié d'à peu près 24 milliards de francs CFA. C'est pas beaucoup, on est loin des indications d'Abuja, mais je pense que progressivement, dans le plan national de développement sanitaire, nous avons fait des projections pour pouvoir atteindre d'ici 2015 à peu près 10% du budget de l'État. Donc c'est un effort qui est fait. Mais attendez, je voulais ajouter quelque chose.
Parce que les deux associations africaines ont très envie de réagir par rapport à ça dans leur pays, en RDC, au Cameroun.
Parce qu'en plus de ça, toutes les réunions que nous avons faites ont insisté sur la mobilisation des ressources endogènes. Et en Côte d'Ivoire, nous venons de bénéficier des fonds qui reviennent sur la taxation du tabac. Le tabac a été taxé et nous avons récolté, pour ceux qui connaissent les francs CFA, 2,7 milliards.
Jean-Paul Moati vous fait bravo, Foggé Foguito aussi.
Voilà, pour soutenir la santé. Et nous allons continuer avec la campagne Petite Monnaie qui va permettre de mobiliser aussi des ressources additionnelles. Donc je pense que des efforts sont faits en Côte d'Ivoire de façon remarquable.
Alors Tabin Tangila voudrait réagir de République démocratique du Congo.
D'accord. Je pense qu'en Afrique, nous n'avons pas besoin de discours. Parce que si je l'ai bien suivi, elle a tenu un bon discours. Mais sur le plan concret, c'est 4%, Madame la Ministre. Jusque-là, ça ne représente rien par rapport à Abuja, l'engagement que votre pays, que mon pays a pris.
Et vous, votre pays, vous voyez, d'ailleurs, quel est le pourcentage consacré
pays,
à la santé?
Nous étions à 3%, ce qui est aussi grave. Mais cette année, ils viennent de voter un budget, ils sont allés... Enfin, on n'a pas encore le dernier chiffre, mais il semblerait que ce sera à 7%.
Voilà, ce qui se passe en RDC, c'est qu'il y a des annonces de chiffres et puis des problèmes de décaissement de l'État.
Bien sûr, c'est ça aussi le problème, c'est que je vais poser la question que je vais poser à Madame la Ministre. Nous dire qu'il y a 4%, c'est bien, mais combien réellement c'est décaissé sur la santé? Combien c'est décaissé?
Alors Madame la Ministre, combien est réellement décaissé?
Moi je pense que d'abord, je voulais dire qu'on ne tient pas des discours. Parce que je ne suis pas justement le genre de personne à tenir des discours. Moi je suis très concrète, je suis pratique.
Il faut rappeler que dans votre parcours, vous êtes médecin, vous avez été très impliqué dans cette lutte contre le sida. Voilà, pour les auditeurs qui ne le savent pas,
c'est depuis le début, j'ai été impliqué dans la lutte contre le sida. Et aujourd'hui, je suis présidente du conseil d'administration de la première ONG nationale de prise en charge du VIH, qui est Akonda VS Côte d'Ivoire. Et je pense que je ne suis pas dans les discours. 4,5% de l'État ivoirien s'est décaissé. Parce que nous avons un président qui tient parole.
Alors Jean-Paul Moati veut réagir et après Foguito.
Deux choses. D'abord, le problème, c'est qu'il faut aussi comprendre les gouvernements. C'est-à-dire que si on veut arriver aux 15% d'un budget, et effectivement, on en est trop loin, il faut dégager des ressources nouvelles. Et de ce point de vue-là, l'idée de taxer, comme on le fait dans le Nord, des produits qui sont mauvais pour la santé, le tabac et l'alcool, ce qui en plus a des effets de prévention, parce que c'est la hausse du prix de ces produits, on sait que ça fait baisser la demande, ce qui est tout à fait normal, c'est une bonne chose et c'est une manière d'avancer dans cette direction. Donc ça, c'est bien. Maintenant, je suis sûr que Madame la Ministre va veiller à ce que l'argent dégagé de ces taxes soit prioritairement mis sur la santé et n'aille pas s'évanouir dans la nature ou aller à d'autres projets peut-être voilà. aussi légitimes, mais voilà. Mais ça, je sais qu'elle le fait très bien. Et c'est un très bon signal. C'est un très très bon signal parce que dans les pays du Sud, le niveau de taxation de ces mauvais produits est beaucoup, beaucoup plus bas qu'il ne l'est, par exemple, en France ou aux États-Unis. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, quand même, pour à la fois abonder dans le sens de tout ce qui a été dit, mais rappeler un fait, les dépenses de santé actuellement, tout compris, c'est-à-dire y compris ce que les gens donnent eux-mêmes par tête en Afrique subsaharienne, en moyenne, c'est $25 par personne et par an. Ça veut dire que si on extrapole, même avec des hypothèses très optimistes de croissance économique, ça veut dire que au maximum, et c'est vraiment optimiste, on arriverait, si tout va bien, c'est-à-dire si l'État met suffisamment les fruits de la croissance au service de la santé, dans le sens des promesses qui ont été faites, au mieux en 2030, on serait, et c'est presque un rêve, à $100 par personne et par an. Avec $100 par personne et par an en 2030, c'est du baratin de raconter qu'on tient les objectifs du millénaire ou leur nouvelle mise en œuvre après 2015.
Clairement, on ne peut pas être en bonne santé avec cette somme-là.
Voilà, c'est ça, ce que ça suffira pas. On est déjà à $3,500, 35 fois plus que cet objectif dans les pays du Nord, comme le mien ou comme les États-Unis. Donc, il faut absolument que les pays s'y mettent, mais s'il n'y a pas une aide internationale qui fait du transfert de richesses, eh bien, on ne tiendra pas les objectifs, ça restera du baratin et on aura dans 20 ans la même discussion qu'on a aujourd'hui et nos amis africains seront encore plus en colère.
Thérèse, une réaction par rapport
beaucoup.
À ça.
Merci. Je voulais dire que Claire Edouard, vous étiez venue en Côte d'Ivoire quand nous avions fait la gratuité généralisée.
Au mois d'octobre,
au mois
d'octobre 2011.
Il y avait des travers, on avait dénoncé ces travers. Mais pour être intelligent, il faut ajuster les tirs. Nous sommes revenus à la gratuité ciblée avec les cibles les plus importantes des OMD. Baisse contre la mortalité maternelle, baisse contre la mortalité infantile. Donc nous avons ciblé notre gratuité sur les enfants de 0 à 5 ans et les femmes enceintes. Et je crois que les premiers résultats sont assez parlants. Mais ça aussi, ce sont des ressources complémentaires. Parce que ce n'est pas les 4,5%, c'est des ressources additionnelles pour soutenir la santé.
Tabin Tangila voulait réagir.
D'accord. Moi, je pense que les efforts qui doivent être faits maintenant en Afrique, c'est qu'on arrive à 15% du budget de l'État à la santé.
Au moins.
Parce qu'on sait en Afrique que le programme présidentiel, etc., entre autres, ça sert pour leur publicité politique.
Leur future élection,
ça on le sait. Parce que là, on va taire un peu le budget et on mettra en avant le président a fait, le président... Non.
Alors qu'ils justement, attendez, je vais redonner la parole à Foggé Foguito là-dessus, parce que vous avez créé avec plusieurs ONG un observatoire au Cameroun et au Burkina Faso pour voir justement quelle est la réalité de la prise en charge sur le terrain. C'est-à-dire, par exemple, on annonce la gratuité, mais de fait, est-ce que les gens n'ont vraiment rien à payer, ou est-ce que dans certaines régions et du Burkina et du Cameroun, il y a des gens qui payent des choses? C'est ça que vous êtes en train de mettre en place?
Oui, cet observatoire, c'est le Treatment Access Watch. Je crois que dans la réalité, et je crois que personne ne me le mentira, il n'y a vraiment pas de gratuité. Certains patients, on arrive à dire mieux, on ne nous disait pas que c'était gratuit. Parce que le parcours de combattants qu'ils font, j'ai dit bien de combattants qu'ils font, combattants dans tous les sens, que ce soit physique, économique, pour avoir accès aux soins malgré le mot gratuité, les fait croire qu'il fallait que ce soit payant. Donc cet observatoire, comme je le disais tantôt, nous permet d'avoir de manière hebdomadaire la situation de la disponibilité et des coûts des traitements dans les formations sanitaires. Et cette disponibilité, nous nous basons que sur ce que dit la loi. La loi dit.
Et votre idée, c'est aussi de traquer la corruption en faisant ça.
Bien non, évidemment, pas, bien hein. évidemment, bien mmh. évidemment. Le témoignage fait dans l'observatoire, si vous allez sur le site, c'est oui, tel médecin nous a demandé ceci pour nous prendre en charge. Parce que parfois, quand vous regardez au fond, le médecin lui-même n'a pas.
L'information, au ministère, ils n'ont pas l'information, oui, c'est ça.
Les médecins n'ont pas l'information, le médicament est à la centrale d'achat, de stockage de médicaments, mais à l'hôpital, il n'y en a pas. C'est pour ça que nous on dit qu'il y a rupture tant que le patient n'a pas le médicament dans son estomac.
Donc vous pourriez étendre votre observatoire à la Côte d'Ivoire, vous rendriez finalement service à la ministre de la Santé, Thérèse
Bien évidemment, si elle nous y invite et qu'elle accepte de ne pas instrumentaliser, parce que le politique, vous savez, ils savent bien nous instrumentaliser.
Volontiers. Je crois que nous sommes autour de cette table pour effectivement partager les expériences.
Et faire avancer les choses.
Et faire avancer les choses. Donc je pense que ne mettons pas la barrière politique ou technique, parce que vous ne savez pas ce que chacun pense. Mais je suis vraiment intéressé par cet observatoire. Parce qu'on a mis en place la gratuité. Ce qu'il a dit, c'est juste. Parce que le parcours, les gens payent quelque chose. Deux fois aussi, il n'y a pas de disponibilité. Donc, on leur demande de payer quelque chose. Mais il faut que ça reste dans les limites de ce qui est faisable. Et non que ce soit perçu comme du racket. Ce qui fait que je n'avais pas d'observatoire. Votre idée est très importante. Mais j'ai mis en place un numéro vert. C'est comme un observatoire, le 143. Et que ça épingle les personnes qui s'adonnent à ces pratiques. Les mauvaises pratiques sont dénoncées. Et nous avons commencé à faire des sanctions de haut niveau, à partir de cette ligne verte. Donc je suis vraiment intéressé par cet observatoire.
Priorité santé cette semaine à Washington à l'occasion de la conférence internationale sur le sida. Alors vous êtes plusieurs à vouloir réagir à cette question de l'observatoire. Jean-Paul Moati, vous vouliez dire un mot et après Tabata Ndjila. Et oui, après j'aimerais bien qu'on parle à la question des droits humains.
Sur cette question, il faut rappeler que au début des années 80, ça s'était appelé l'initiative de Bamako. Les grandes organisations internationales, l'OMS, la Banque mondiale, qui voyaient les pays, notamment africains, déjà confrontés à des difficultés de financement des systèmes publics, ont dit on a la solution, on va faire payer le consommateur au moment des soins et on va introduire le recouvrement des coûts. Ça va être génial parce que ça réglera les problèmes de financement et en plus, comme les gens paieront, ils seront responsables et ils feront pression en tant que consommateurs pour se battre, pour avoir des meilleurs services de qualité.
Mais le résultat est...
Résultat des courses, et on sait, moi je me suis battu avec d'autres pour avoir de l'information objective sur ce point, on a évidemment aggravé de façon significative les inégalités d'accès aux soins, parce que même des toutes petites sommes peuvent, dans ces pays où le revenu manifestement est pas suffisant, où il y a beaucoup de pauvres, ça peut avoir des effets dissuasifs extrêmement importants. Donc, évidemment, la solution, c'est de pouvoir, pour les services essentiels, et évidemment, les ARV, par exemple, pour les personnes infectées par le VIH, c'est un service essentiel, il n'y a pas à discuter, il faut qu'ils puissent avoir l'accès gratuit au point ou quasi gratuit, enfin le plus gratuit possible, au point de délivrance des soins.
Et sans rupture de médicaments.
Le problème, c'est qu'on sait aussi que c'est pas la panacée, parce que quand il y a gratuité, il y a tout un certain nombre d'études qui le montrent, il peut arriver que d'abord, cette gratuité soit pas réelle, c'est-à-dire qu'on demande quand même aux gens de payer quand même, hein. Et puis aussi, c'est souvent les gens qui, disons, qui sont les plus, soit les plus malins, soit les plus respectables ou les plus riches, qui vont pouvoir bénéficier de la gratuité. Donc la question, c'est que bien sûr, il faut la gratuité pour les services essentiels, et c'est magnifique qu'en Côte d'Ivoire, vous essayez de le faire pour, en tout cas, au moins pour les médicaments SIDA, mais il faut derrière ça bâtir des systèmes de financement. Et ça, c'est un point sur lequel nos amis anglo-saxons sont en retard. Il faut les convaincre d'évoluer. La solution, c'est de bâtir des systèmes de financement de type système d'assurance maladie, comme on en a dans le Nord, pour qu'effectivement, on garantisse ça. Et comme le Thérèse et notre ami du Cameroun le l'ont dit, ça permet d'inscrire dans la loi les responsabilités de financement du système.
J'aimerais bien vraiment qu'on parle maintenant, qu'on change de sujet, qu'on parle maintenant de la question des droits humains. Et Bruno Spire, je voudrais vous donner la parole là-dessus, parce que pendant cette conférence, il est aussi question de ça. Vous vouliez peut-être dire un mot, Thérèse.
Par rapport à la gratuité pour la prise en charge du VIH, puisque nous sommes dans la conférence internationale, ce que nous déplorons, c'est qu'effectivement, les ARV sont gratuits, mais tous les médicaments pour traiter les affections opportunistes ne sont pas gratuits, ils sont à la charge du patient. De même que des examens biologiques ou des examens paracliniques pour asseoir des diagnostics. On nous demande de suivre les algorithmes, mais les algorithmes ne permettent pas toujours de poser un diagnostic. Et je pense que là aussi, nous devons faire une révolution dans la prise en charge des affections opportunistes. Je voulais ajouter cela.
Bon, alors, Foguito, t'as maintenant Gila, et après on parle de droits humains.
C'est très important ce que vient de dire Madame la Ministre. Dans mon pays, les infections opportunistes, c'est gratuit, mais le plus dangereux, c'est les examens de suivi biologique, les examens médicaux. Ça ne sert à rien de donner les ARV gratuits.
C'est ça qui permet de savoir comment la maladie évolue dans le corps humain.
Quand 6 mois après, vous allez lui demander d'aller faire un examen, il ne va pas être en mesure de le faire et vous n'allez pas être en mesure de continuer de donner les médicaments. Donc je crois qu'aujourd'hui en Afrique, si on veut aider, contribuer grandement à lutter contre le VIH/SIDA, il faut donner toute la chaîne, comme ça se fait au Nigeria, gratuite. C'est-à-dire les examens, le dépistage, les examens de suivi biologique et les ARV gratuits totalement.
T'as pas entendu, là, vous aussi réagir.
Un élément que je voudrais ajouter, c'est au regard, par exemple, de mon pays, le Congo, qui a beaucoup de potentialités, beaucoup de richesses, de l'or, les diamants, les coltans, les cobalt, tout y est.
Et le pétrole.
Le pétrole, tout est. C'est un paradis au Congo. Donc, de ce point de vue-là, on ne peut pas être en train d'étendre la main à tout moment. Nous devons être responsables. Bannir la corruption, bannir la tricherie, bannir toutes les antivaleurs pour qu'on ait suffisamment de ressources pour que le peuple congolais, le peuple africain de manière générale, soit pris en charge par les ressources de l'État, comme ça s'est fait dans d'autres États. Sinon, je pense que les beaux discours ne suffisent pas pour moi.
Voilà. On va
revenir à lui en disant qu'effectivement, il y a toute une stratégie aujourd'hui pour faire l'accès à la couverture universelle. Mais on a parlé tout à l'heure de contraintes. Qu'est-ce qu'il y a comme contraintes pour obliger les États à instaurer la couverture universelle dans les pays pour que effectivement la santé soit prise en charge correctement? Parce que si nous ne mettons pas de contraintes au niveau du temps, au niveau des procédures, et que d'ici 5 ans, nous revenons encore pour parler de l'accès universel, ce serait de beaux discours comme ils me l'ont reproché tout à l'heure.
Je voudrais qu'on parle maintenant des droits humains, parce que c'est une question qui est aussi abordée pendant cette conférence. Bruno Spire, est-ce que vous pouvez nous dire un peu justement quelle est la bataille sur cette question? Je l'ai dit un peu moi en début d'émission, il y a quand même un rapport qui montre que les politiques répressives alimentent finalement l'épidémie.
Enfin, nous, les associations, ça fait des années qu'on sait que la question des droits humains, elle est indissociable des questions de santé, et que c'est parce que les gens sont discriminés, qu'ils n'ont pas, vont avoir moins accès à la prévention, moins accès aux soins, diminuer l'estime de soi. Enfin, il y a énormément de facteurs, à la fois psychologiques et tout simplement concrets, quand on est poursuivi à cause de son statut sérologique ou de son orientation sexuelle, bien évidemment, les questions de santé deviennent secondaires.
Alors,
dans ces conférences, en fait, tout le monde parle des droits humains, tout le monde est à peu près, il y a une espèce de consensus là-dessus, mais après, il y a un peu deux lignes. Il y a la ligne de dire les droits humains en général, mais surtout de ne pas nommer les populations les plus concernées parce que ça n'est pas politiquement correct. Et pourtant, l'épidémie dans tous les États, et y compris dans les pays d'épidémie généralisée, elle est concentrée dans certains groupes. Et ces groupes sont les homo-bisexuels masculins ou hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, les usagers de drogue par voie injectable, les travailleuses-travailleurs du sexe. Et ça, il faut le nommer. Il faut aussi dire qu'il y a les inégalités de genre. Parfois, c'est pas dans la loi, mais qui contribuent aussi fortement à la diffusion de l'épidémie. Quand, dans certains États, on considère que c'est normal de violer les femmes et qu'il n'y a pas de poursuite ensuite après ça. Donc, tout ça, ça fait partie d'une politique de santé qui doit être intégrée dans un pays. Il ne suffit pas. C'est bien évidemment très important qu'il y ait les moyens pour avoir les antirétroviraux et la prise en charge, mais ce n'est pas suffisant. Il faut donner envie aux gens d'aller vers le soin et la prévention. Il faut protéger ces populations qui sont vraiment très stigmatisées. Et les politiques, ils doivent être dans la protection. Et dans beaucoup de pays, malheureusement, les politiques sont au mieux dans l'indifférence et parfois, malheureusement, trop souvent, dans la répression, dans la poursuite, avec parfois même des peines de mort pour les personnes homosexuelles dans beaucoup de pays africains. Et la solution viendra des Africains, elle ne viendra pas des pays européens. Nous, les activistes européens, on est là pour soutenir nos collègues d'Afrique, bien entendu. Il y a un réseau dans lequel aide à participer à la construction, mais qui est un réseau autonome, qui est Africa Gay contre le sida, et qui est organisé par des associations africaines qui font des actions avec et pour les personnes homosexuelles.
Et voilà,
qui intervient régulièrement. Et il faut soutenir également toutes les populations vulnérables, comme les usagers de drogue ou les travailleuses du sexe.
Je voudrais que Foguito réagisse sur cette question, parce que vous, au Cameroun, justement, l'homosexualité est criminalisée.
Oui, c'est criminalisé, mais je voudrais reprendre en disant que ce n'est pas seulement les politiques répressives. Il y a aussi ce qu'on appelle les politiques laxistes, c'est-à-dire ce qu'on a promis, ce qu'on a mis dans la loi et qu'on n'applique pas. Surtout en termes de faciliter, contribuer à l'accès aux soins. Parce que je me pose toute la question, pourquoi est-ce qu'on doit interroger quelqu'un sur son orientation sexuelle quand il a besoin des soins? Ça ne devrait pas se faire. En termes purement droits humains, on ne demande pas à quelqu'un comment tu as fait pour attraper ton VIH avant de lui donner les ARV.
Foguito, est-ce que je peux vous le demander assez directement? Il n'y a pas que la question des politiques. L'impression qu'on a, en tout cas moi vu d'où je suis, c'est que la population est assez homophobe dans un certain nombre de pays d'Afrique.
Oui, comment je veux dire la population est assez homophobe? Je crois qu'il y a une question que je me dis toujours, les gens du Nord ne comprennent pas. Et Bruno l'a si bien dit, c'est aussi d'apporter sa solution. Il faut aussi que le Nord accepte qu'il laisse le Sud apporter lui-même ses solutions à sa manière, je dis bien à sa manière, à ces questions-là. Vous savez, c'est pas facile pour moi, même si tu es hétéro, d'embrasser une femme en route dans mon pays, dans les contours où je viens. Mais alors, vous n'allez pas aussi demander à l'autre de le faire de manière ouverte. Moi, je dis que c'est une question de stratégie dans la manière d'aborder le sujet. Parfois, je me pose la question, si on dépénalise, si on fait tout ce qu'on dit là, comme en Afrique du Sud, on continue à voir que c'est les populations qui, entre guillemets, se font ce qu'ils appellent, soi-disant, leur justice. Je crois que cela participe aussi de ce qui se passe depuis 10 ans dans le mouvement de respect des droits liés aux minorités sexuelles, d'une éducation, et que peut-être on va arriver à quelque chose tôt ou tard, mais qu'il y a une autre manière de le poser, ce problème-là.
Thérèse Dry, une réaction. Comment faire changer les mentalités? Parce qu'on sent bien qu'il faut faire changer certaines politiques aussi, certaines lois, mais aussi les mentalités.
Oui, moi je pense que par rapport aux droits humains dont on a parlé, il y a eu des avancées en ce qui concerne les droits politiques, les droits civils des populations minoritaires, comme le dit les personnes gays, les femmes, etc., les professionnels du sexe, pour lesquels les études ont montré que quand même la prévalence reste plus élevée que dans la population générale. Ça, il faut l'admettre. Mais au niveau socio-culturel, c'est là où il y a plus de difficultés. Comment faire changer les comportements? Je crois que ce n'est pas en faisant du tapage, parce qu'on est un groupe minoritaire et en faisant du tapage qu'on va faire changer les choses. Parce que ce sont les comportements qui sont les plus difficiles à faire changer. Je crois que c'est en adoptant des attitudes positives. Alors quand on a parlé des droits des personnes minoritaires, je pense qu'ils ont des devoirs aussi. Parce que tout à l'heure, il a parlé, Bruno, qu'il y a des gens qui sont bisexuels, c'est-à-dire homo et en même temps hétéro. Or, nous faisons la promotion des comportements à moins de risques. Ça veut dire que si on est homo, bon, on est homo, on utilise les préservatifs pour se protéger, mais on ne va pas en même temps être homo et hétéro aussi. Je crois que c'est ça aussi le changement du comportement. Parce qu'on y arrive, c'est ça aussi le changement du comportement.
Bruno Spire, je sens que vous voulez réagir.
Oui, madame la ministre, je suis sûr que vous mangez du sucré et du salé. Donc je ne vois pas pourquoi. Il y a des gens qui mangent que du sucré, il y en a qui mangent que du salé. Je pense qu'il y a des personnes qui ont envie d'avoir des relations sexuelles avec des hommes comme avec des femmes. Et en tout cas, il faut respecter les choix des individus.
Vous ne croyez pas, madame la ministre, que c'est simplement parce que l'homosexualité l'homosexualité est tellement mal vue en Afrique que les gens se sentent obligés de se marier et ça ne leur empêche pas d'avoir une activité homosexuelle. Bonne espérance, est-ce que je me trompe quand je dis ça ?
C'est vrai pour une bonne partie des gens. Il y a une telle pression sociale pour se marier, pour avoir des enfants, que beaucoup d'hommes homosexuels vivent de façon bisexuelle. Il y en a qui sont aussi bisexuels par orientation. Et de toute façon, d'un point de vue pragmatique, d'un point de vue de santé, il faut faire avec ce que sont les gens. Et c'est pas en faisant changer les gens qu'on va améliorer l'épidémie. Les gens vont pas devenir autre chose que ce qu'ils sont. Et ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des politiques de prévention qui soient respectueuses des droits pour que les personnes puissent avoir accès à tous les services, y compris le préservatif quand c'est nécessaire, y compris les antirétroviraux. Parce que les antirétroviraux, c'est aussi de la prévention pour pouvoir justement avoir un impact d'un point de vue de santé publique.
Oui, là, nous
rejoignons. Mot, on arrive à la fin de cette émission, je suis désolée.
Excusez-moi, j'ai dit là, nous nous rejoignons parce que nous, en tant que ministre de la Santé, puisque je suis là quand même à ce titre, c'est de faire, d'améliorer les soins, quel que soit la situation de la personne, qu'elle soit homo, qu'elle soit bi ou... En tout cas, il faut améliorer la santé.
Juste oui, Jean-Paul Moati, mais un mot, parce qu'on arrive vraiment à la fin.
Vous venez de dire exactement ce qui doit être le fil conducteur pour les prochains objectifs du millénaire, c'est-à-dire le combat pour les droits fondamentaux, le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit à un environnement non totalement pollué. Je suis complètement d'accord avec vous.
Merci beaucoup à tous pour votre participation. Il y aura encore beaucoup de choses dont on aurait pu parler. On n'a pas parlé de la situation en Guyane, on pourra y revenir un jour, Bruno Spire, la situation aussi en France sur la question des travailleuses du sexe. Merci à Guillaume Munier pour la réalisation de cette émission, une émission réalisée avec l'appui de l'Union européenne. Demain, nous serons toujours ici à Washington. On parlera des co-infections, VIH, tuberculose, VIH, hépatite et de la prévention des risques auprès des usagers de drogue.
RFI à Abidjan, 97.6 FM.